Frères et sœurs bien-aimés, quelle est la différence entre le fait de donner à manger à celui qui a faim uniquement par humanisme et de donner à manger à celui qui a faim parce que nous sommes disciples de Jésus? Dans un autre registre, quelle est la différence entre l'enseignement public et l'enseignement catholique? Il y a certainement plusieurs réponses à ces deux questions, mais partie de ces réponses a à voir avec la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Ascension. Lorsque nous donnons à manger à quelqu'un qui a faim, parce que nous sommes disciples de Jésus, non seulement nous faisons preuve d'humanisme, mais nous croyons aussi que cette personne-là a faim aussi d'autre chose. Et vous voyez que l'Église régulièrement a cette attention particulière pour répondre aux besoins spirituels des personnes. Mais plus encore, quand nous sommes disciples de Jésus, nous croyons que cet acte d'amour désintéressé retentit dans l'éternité. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie éternelle, d'une certaine manière. Cette vie éternelle qui vient éclairer l'agir des disciples de Jésus et leur faire prendre conscience que c'est dans cette attitude d'espérance, parce que la vie éternelle c'est l'espérance, que nous sommes invités à venir au secours de ceux qui sont dans la difficulté. Pareil pour l'enseignement catholique, l'enseignement privé, il y a des bons ou moins bons établissements dans les deux formes d'enseignement, mais la différence n'est pas là. La différence, c'est que dans l'enseignement catholique, quand il répond à sa vocation, c'est aussi toute la personne de l'élève qui est là, qui est prise en charge, jusque dans la vie éternelle. C'est, au fond, ce à quoi il est appelé à la fin des temps. Vous voyez la grande différence. Et parfois, on peut regretter que certains établissements catholiques ne répondent pas fidèlement à cette vocation et ne soient pas assez proposants, même si on voit bien que c'est un peu compliqué avec l'État quand on est sous contrat de répondre à ses besoins spirituels. Mais aussi parfois on peut regretter pour la partie sociale, l'aide aux démunis, qu'on fait une différence entre le fait d'être attentif aux personnes plus pauvres et le fait de la spiritualité, par exemple. Souvent, en tout cas pratiquement jamais, dans les repas servis par le Secours catholique, il y a de bénédicité. Dommage. C'est dommage parce que le pauvre, il est d'abord pauvre de soins spirituels, bien sûr, de soins médicaux, d'attention, de nourriture, de toute forme de logement, tout ça, très bien. Et c'est intéressant de voir que l'Église, dès les premiers temps, parce qu'elle a conscience de la vie éternelle, précisément, est allé aux frontières de l'humain. Là où l'humain était le plus en danger, le plus en difficulté, eh bien c'est là qu'elle est allée, au nom de la vie éternelle. Pas juste au nom d'un humanisme. Et le pape François disait, l'Église n'est pas une ONG. C'est tout à fait différent. D'autres s'occupent des soins, d'autres s'occupent de l'attention sociale, de la nourriture, etc., pour d'autres motifs. Mais ce qui motive le disciple de Jésus, dans sa manière d'agir, c'est la vie éternelle. Et on fait bien la différence entre l'espoir et l'espérance. On peut avoir l'espoir qu'on va vivre de façon meilleure. Mais oui, on peut avoir l'espoir de gagner au loto. Très bien, mais ça n'a rien à voir avec l'espérance. L'espérance, c'est l'espérance dans les promesses de Dieu. L'espérance dans la vie éternelle. Et ça, je crois que cet aspect-là est peut-être pas assez prêché, alors on en profite le jour de l'Ascension, parce que c'est vraiment cette fête qui est dédiée, et de se rappeler aussi le statut de l'âme dans la vie éternelle. Vous savez qu'il y a trois statuts de l'âme dans la vie éternelle. Il y a ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire la pleine vision, la pleine communion avec Dieu. Et puis ensuite, il y a le purgatoire qui est précisément cet état de l'âme où, au fond, il y a une purification à avoir, parce qu'on voit que notre âme, il n'y a que l'amour qui rentre dans le royaume des cieux. Si Dieu est amour, il n'y a que l'amour qui rentre. Et on voit bien qu'en nous-mêmes, il y a des replis, il y a de la violence, il y a de la colère, il y a de l'égoïsme. Tout ça, c'est en nous, dans notre âme. Et donc, on voit très bien qu'on a besoin d'une purification. Et ce qui est intéressant, c'est que la sortie du purgatoire, c'est le paradis. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas l'enfer dont je vais parler tout de suite. Non, c'est le paradis. Et qu'est-ce qui nous purifie? C'est la vision de l'amour de Dieu qui nous purifie. C'est intéressant de dire que cette vision de l'amour de Dieu purifie les scories qu'on peut avoir dans notre âme, des conséquences en nous du péché originel, pour nous emmener progressivement vers la pleine communion. Et puis enfin, il y a l'enfer. Alors c'est vrai qu'autant, peut-être plus au 19e auparavant, l'Église prêchait beaucoup sur l'enfer, mais aujourd'hui elle ne prêche plus du tout. Ce qui est vraiment aussi dommage, parce que ça fait partie de notre foi catholique. L'enfer, et là il faut se méfier des artistes, parce que l'enfer, certains artistes, les tableaux, on voit le paradis au-dessus, et l'enfer, le jugement dernier, le paradis au-dessus, et l'enfer en dessous dans les flammes, etc. Bon, c'est une manière de représentation, mais l'enfer, il est en Dieu. C'est évident, parce qu'on va vers Dieu de toute façon. Et en Dieu, c'est-à-dire que l'enfer, il est l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. L'amour de Dieu vécu comme une souffrance. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va en enfer, parce que, heureusement, parce que ce n'est pas juste une distraction dans la prière ou une manière un peu inappropriée de gérer ses pulsions. Non, non, c'est connaissant l'amour de Dieu, je le refuse. Ça, c'est pas pareil. Là on est dans... Hein, c'est ce que Jésus appelle le péché contre l'esprit. Connaissant l'amour de Dieu, connaissant sa miséricorde, je le refuse ici-bas. Alors, ça peut être des personnes qui, par exemple, ont fait le choix de sectes satanistes, vous voyez, de tout ce qui est des sciences occultes. Hein, les sciences occultes, la voyance... etc. Tout ça, ça ouvre des portes vers justement, nous croyons qu'en enfer, il y a le Satan et ses anges, hein, qui y sont, mais l'Église ne condamne personne. Autant elle canonise, mais on ne sait pas qui est en enfer, de personne humaine. Mais en tout cas, c'est intéressant que ce soit une possibilité. Oui, c'est intéressant que ce soit une possibilité parce que ça permet aussi une liberté. Hein, au fond, cette vie éternelle, Elle modifie notre rapport au temps. Elle modifie notre rapport au temps. Elle fait que notre temps, c'est un temps fléché. Il y a un début et puis il y a une fin. Et donc il y a une intensité. Oui, c'est tout à fait différent de, par exemple, les traditions, les sagesses asiatiques. Les sagesses asiatiques où c'est un temps circulaire. Et on parlera de réincarnation. Nous, on parlera de résurrection. Évidemment, ça n'a juste rien à voir, la réincarnation et la résurrection. La réincarnation, voilà, on revient alors dans un état, soit selon qu'on est bien, soit bien comporté ou mal comporté sur Terre, un état plus ou moins développé de créature, on revient dans un corps plus ou moins développé. La résurrection, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on est appelé, à la fin des temps, à ressusciter avec notre corps. C'est intéressant de voir que la résurrection de la chair, c'est ce que nous allons professer dans un instant dans le credo, la résurrection de la chair, c'est au fond, à travers cette conscience de la vie éternelle, de prendre la dimension aussi de notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes invités avec notre corps, non seulement avec notre âme, mais avec notre corps, à contempler Dieu. De mes yeux, je verrai Dieu. Donc c'est, il y a une joie plus grande après la résurrection de la chair qu'avant, parce que cette joie d'être avec Dieu, c'est aussi avec notre corps, un corps glorieux. Alors corps glorieux, on n'a que l'exemple de Jésus, qui est avec son corps et son âme. On sait aussi que la Vierge Marie, l'Assomption, est avec son corps et son âme en paradis, mais on n'a pas d'expérience de corps glorieux. C'est un corps, on voit bien dans les évangiles, il passe alors que les portes sont fermées, il est présent à différents endroits au même moment, etc. Donc mais en même temps, il mange, voilà, etc. Donc, je vous dis, tiens, c'est intéressant, cette fête de l'Ascension, Jésus qui, corps et âme, s'élève dans le royaume, ça aussi, ça nous aide à revisiter la place de notre corps et dans notre rapport à notre corps et de dire, tiens, ce corps-là, il sera invité à la fin des temps à contempler la gloire de Dieu, à être associé aussi. Donc ça veut dire la dignité du corps humain, non seulement par l'incarnation, hein, évidemment, le Seigneur qui a pris notre nature humaine, mais dignité du corps humain aussi par l'ascension. Je veux dire, nous sommes invités à la fin des temps, alors nous serons glorifiés dans notre corps aussi. Alors, comment est-ce qu'on ressuscitera la résurrection de la chair? Alors, est-ce que les vieux ressusciteront vieux? Est-ce que les maigres, les gros, etc.? On n'en sait absolument rien. Il n'y a pas d'avis particulier sur cette question. La théologie ne dit rien sur cette question-là. Mais c'est intéressant de dire, justement, la vie éternelle, ça donne toute une perspective, toute notre réalité humaine est éclairée par la vie éternelle. Par exemple, ces bâtiments, etc., ils sont très bien, magnifiques, on a restauré la chapelle, ça n'aurait aucun sens sans la vie éternelle. Bon, nous, on n'est pas là pour les bâtiments. Ça n'a absolument aucun sens. Très bien, mais on voit bien, par exemple, il y a des abbayes où il n'y a plus de religieux, etc., mais on voit bien qu'il y a une âme qui n'est plus au rendez-vous. Oui, je pense que c'est intéressant de dire, cette perspective de la vie éternelle, ça donne un éclairage, ça donne une dimension, une densité, une épaisseur au quotidien qui... peut-être qu'on ne mesure pas assez, hein, justement, et c'est heureux que dans cette fête de l'ascension, bien, on soit vraiment tourné vers le ciel en espérance. Hein, c'est ce que disait la prière d'ouverture. Hein. Nous sommes dans cette attitude d'espérance, d'attente, mais qui n'est pas une attente passive. Hein. Encore une fois, c'est une attente qui fait que ne restez pas ici à regarder le ciel, voilà. Agissez, soyez mes témoins, c'est ce que dit Saint Luc dans l'Écriture, dans le passage qu'on vient de lire, soyez me refaites-vous d'une force d'en haut, voilà, et vous allez être mes témoins. Donc à vous d'en être les témoins. Voilà. On est témoins de cette vie éternelle, et c'est vrai que c'est au fond que les autres s'interrogent sur ce qui nous pousse à agir. C'est aussi ça l'évangélisation. C'est que nous voyons agir, mais pourquoi cette personne agit comme elle agit? Du coup, pose éventuellement des questions. Hein, alors qu'elle n'agit pas comme tout le monde. Elle n'agit pas comme tout le monde, parce que, justement, la vie éternelle, la perspective de la gloire de Dieu, le fait que nos actes retentissent dans l'éternité, tout ça fait qu'on a une manière d'agir différente, et puis aussi, on a une manière de considérer la mort différemment. Hein, c'est aussi bien avec les lois récentes, etc., c'est lié aussi à la vie éternelle. Je veux dire, pour nous, la personne humaine a une dignité de la conception jusqu'à la mort naturelle, parce qu'elle est habitée, parce qu'on n'a pas la main sur l'autre, hein, qui ne tuera point. Donc c'est intéressant d'être attentif à ça, et aussi d'être attentif aux prières pour nos fidèles défunts. Parce que, vous savez, cette église du ciel et cette église de la terre, hein, notre fondateur, le Père Lamy, disait qu'il y a l'épaisseur d'un papier de cigarette entre le ciel et la terre. Un papier de cigarette. Lui, c'était un mystique, il voyait la Sainte Vierge comme je vous vois, les anges gardiens, même une apparition avec le démon, etc. Bon, ça reste des révélations privées, mais c'est intéressant. Il nous dit quelque chose, les mystiques nous disent quelque chose. Ils voient des réalités que nous ne voyons pas et qui ne sont pas accessibles avec les cinq sens. Et donc c'est intéressant nous-mêmes que nous soyons attentifs aux prières pour nos fidèles défunts. Et on voit bien, par exemple, dans des églises de campagne, etc., où souvent, rentrer dans l'église, on traverse le cimetière. Vous voyez, on traverse le cimetière parce qu'il y a cette conscience que les défunts font partie de l'assemblée. Hein, quand ce n'est pas dans l'église elle-même que certaines personnes sont enterrées. Vous voyez, donc on a un éclairage à la fois sur la mort, évidemment après la mort, et sur notre existence. Et c'est important, je veux dire, même le fait de mettre un enfant au monde, voilà, quand on a la conscience de la vie éternelle, c'est différent quand on ne l'a pas. Quand on ne l'a pas, ben on met l'enfant au monde pour la fosse. Parce que là se termine tout, voilà. C'est sûr, on va tout se terminer entre quatre planches. C'est très bien. Mais c'est pour nous, c'est pas ça, comme ça qu'on voit, par exemple, la manière dont d'éduquer des enfants. Si vous éduquez un enfant en pensant qu'il terminera entre quatre planches, c'est pas pareil que si vous pensez qu'il est amené à contempler la gloire de Dieu. Ça n'a juste rien à voir. Oui, je pense que... Et c'est des conséquences peut-être concrètes auxquelles on n'a pas... on n'a pas ces consciences. Vous voyez, je pense que c'est bien d'en faire mémoire. Je n'ai pas la prétention de vous rappeler quoi que ce soit, vous le savez par cœur, mais c'est bien justement à travers cette fête de l'Ascension qu'on reprenne conscience de l'importance et des conséquences concrètes de la vie éternelle. Alors c'est cette grâce particulièrement qu'on va demander par l'intercession de la Vierge Marie, qui est personne humaine, hein, Jésus est personne divine, personne humaine, la Vierge Marie nous montre justement le chemin du ciel, elle est associée à son Fils jusque dans la gloire. Puisse-t-elle faire de nous des témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable.